Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, vous écoutez Attitude, votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Vous êtes bien sur Attitude et c'est dans votre émission Culture Sport, pardon, c'est chaque lundi, 19h15, 19h45, l'émission des sportifs. Nous recevons chaque lundi un invité. J'accueille tout d'abord notre mémoire vivante du sport en Charente, Dédé. Bonjour mon Dédé.
Salut Didier, salut les auditeurs et bonsoir Richard.
Et nous accueillons Richard. Bonsoir Didier. Qui nous fait l'amitié de passer un peu de temps avec nous. Richard, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci, toujours un plaisir de venir vous rencontrer.
C'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi. Donc ce que je te propose Richard, c'est tu as une vision globale du handball en Charente. Donc tu es la personne idoine pour pouvoir nous en parler. On va faire, si tu le veux bien, un retour sur la saison passée. Et peux-tu nous faire un résumé de ce qui s'est passé à la fois à la CH et à LJO?
Alors, c'est simple. Les deux équipes se sont retrouvées en National 1 avec les turpitudes qui concernent le club de la LJO qui ont été en partie réglées par la justice, mais pas en totalité. Il y a eu un premier jugement qui m'a dédouané de toutes les malversations par voie de presse interposée qu'on m'avait mise sur le dos. Et fin de compte, le seul point qu'a retenu le tribunal, c'est qu'en décembre 2022, quand je saisis le tribunal, je n'ai pas de licence au club, puisque le club refuse de me faire une licence. Et ils disent du coup que je suis pas capable d'agir en justice sur des événements qui sont produits quand j'étais président en mars. Donc bon, je pense qu'ils ont pas voulu s'embêter au tribunal. C'est comme ça, on fait appel. Mais la bonne chose, c'est que toutes les accusations ont été voilà. Donc ça, c'est ma petite satisfaction personnelle. J'étais pas inquiet, mais moi, ce qu'il faut dans cette histoire, c'est que je retrouve tout mon honneur. Voilà. Après, comme il y a des histoires judiciaires en cours, j'en dirai pas plus, on va laisser la justice faire son travail. C'est toujours très facile de dénigrer quelqu'un, de salir l'honneur de quelqu'un, et revenir pour montrer qu'on n'a pas été quelqu'un de malhonnête, c'est toujours très long. Mais je prends le temps de faire les choses proprement et pas sur un coup de tête.
Au plan sportif, donc, qu'est-ce qui s'est passé à la LJO?
Eh ben, à la LJO, donc, hormis le président qui a été mis dehors, ils ont mis l'entraîneur qui avait fait monter l'équipe en National 1. Ils ont repris un entraîneur qui est Nicolas Pavillard, qui sa fille a joué à Cognac en moins de 18 national et en N3 à l'époque. Quelqu'un qui connaît le handball, mais entre connaître, entraîner des garçons et entraîner des filles, c'est pas simple. Et au final, ne dirige pas un club de handball qui veut, n'entraîne pas une équipe qui veut, et ça a fait 24 défaites sur 24 matchs.
C'est une tragédie quand même
sportive. Alors, c'est une tragédie. Moi, j'estime qu'on avait les armes pour rester en National 1. Voilà, après les choses se sont passées comme ça. Je pense que ça allait bien à la collectivité qui est Grand Cognac, qui n'a pas accompagné financièrement la montée, qui a laissé le même niveau de subvention et même encore cette année en N2 depuis 4 ans. C'est-à-dire il n'y a même pas eu 1 euro de subvention de plus malgré et l'inflation et le niveau qui a monté d'une division. C'est-à-dire que on se retrouvait au même niveau que le rugby avec 3 fois moins. C'est-à-dire 60 000 euros contre 180 000 de l'autre côté. Mmh. Mais bon, c'était que des filles, donc forcément, ça méritait pas plus.
Quelle est la différence, Richard, entre entraîner les filles et les masculins? Quelle est la, il y a une grosse différence ou c'est,
oui. Moi, je pense, et tu connais bien ça, puisque toi, t'as connu la LJO du temps de Jean Lacaze. Les filles, autant des garçons, ça va pas, tu te mets à la rigueur un coup de pied au cul, tu t'engueules, ça va bien, et puis on travaille, et puis on est sur un défi physique. C'est un jeu de force. Autant les filles, il faut travailler sur l'affect, il faut travailler le jeu féminin est beaucoup plus fin, plus spécifique. Donc il y a forcément des critères qui rentrent en ligne, des attitudes, des postures qui font que voilà, il faut amener quelque chose de différent. Et à ce niveau-là, c'est pas les quelques indemnités que l'on donne aux joueuses qui les font. Ça, c'est pour couvrir les frais d'essence. C'est que si elles sont là, c'est qu'elles sont passionnées à ce niveau-là, hein, de la N2, de la N1. Elles sont passionnées et elles ont envie de manger du handball. Donc, on l'a bien vu quand l'ancien coach Désiré Parfait était là. Il y avait beaucoup de 3 séances par semaine qui étaient intensives et les filles ont demandé que ça et ont gagné 21 matchs sur 22, quoi. Mm-hmm. Et la même équipe l'année d'après est pas capable de gagner un match.
Ouais.
Donc il y a forcément quelque chose qui a été pris du mauvais côté.
As-tu le regard cette année en National 2 sur le LJO?
Bah écoute, ils commencent à gagner des matchs. L'équipe est à peu près identique. Ils ont récupéré une ancienne franco-anglaise qui s'appelle Grace Henley, qui a joué à Celles-sur-Belle, qui était au pôle, que j'avais essayé de faire venir avant ses études à Cognac et qui a parti faire ses études et qui revient. Ils ont récupéré une joueuse de Celles-sur-Belle qui avait pas beaucoup de temps de jeu. Ils ont la structure de l'équipe est quasiment identique. Même si ça a été dur en N1, ils ont un rythme, une vitesse qui fait que quand je lis que on vise le maintien, ouais, ok, tu pourrais même essayer de viser la première partie de tableau, quoi, tu vois, avec un petit peu d'ambition, le truc, voilà. Après, l'entraîneur, je le connais bien, Frédéric Guirao, ancien arbitre, il est cadre à la Ligue pour l'arbitrage, il a été entraîneur au Gonpontour, c'est quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs. Voilà, après, je dis, ce qu'il va falloir qu'il arrive, c'est donner suffisamment à manger techniquement pour que les filles puissent être satisfaites de ce côté-là. Après, le retour que j'ai avec les quelques filles qui sont que j'ai en contact, c'est qu'elles sont heureuses de rejouer ensemble avec moins de tension, et c'est explicable puisqu'il n'y a pas de défaite. Et donc, effectivement, on est sur une posture positive sur le handball. Quand tu gagnes, c'est plus facile de bien s'entendre que quand on perd, quoi.
Elles ont le potentiel pour monter,
Richard. C'est bien.
Comment?
Elles ont le potentiel pour monter ou pas?
Je ne pense pas.
D'accord.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que dans le meilleur des cas, ils feront dans les 3 premières.
D'accord.
Voilà. Après, sans trop se fatiguer, un milieu de tableau et en cas de cata, bah, c'est une fin de tableau avec un risque de descente, quoi. Mais j'ose pas l'imaginer.
Qu'est-ce qui manquerait, d'après toi, Richard, quoi, tu vois de l'extérieur maintenant, qu'est-ce qui manquerait pour notamment jouer les premiers rôles pour essayer de remonter en National 1?
D'abord, une certitude qu'il faudrait que la collectivité accompagne cette montée, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, parce que le nerf de la guerre, c'est de l'argent.
Ben oui.
Puisque en National 1, il n'y a plus que 4 poules, donc la France est coupée en 4. Alors qu'en National 2, elle est coupée en 8.
Donc ça limite les déplacements.
Donc ça impacte les déplacements. Première chose. Deuxième chose, la National 1, on le voit avec Angoulême. Ils ont, tu prends des filles qui ont connu de la D2, voire certaines de la D1, qui sont sur une fin de carrière. Mm-hmm. Il faut s'armer pour avoir 2-3 joueuses d'expérience qui permettent de tirer vers le haut les jeunes joueuses que tu as intégrées, les joueuses que tu as dans l'équipe. Voilà, il est dommage par exemple qu'à Cognac l'année dernière on a des moins de 18 au plus haut niveau régional qui terminent à la 3e place. Et cette année, on n'aura pas de moins de 18 et il y a des filles qui sont parties dans d'autres clubs.
Oui.
C'est-à-dire les talents, les jeunes talents que t'as formés pendant 4, 5 ans, ben, par un manque d'anticipation, de managériale, ben, tu dis, ah, ben, merde, ben, on supprime et, tu laisses partir des filles que t'as formées au club parce que t'as pas de niveau de jeu à leur proposer. C'est dommage.
Oui, c'est dommageable, oui, effectivement. Sur la saison de la CH l'année dernière, Richard, tu portes quel regard ?
Ah, ça a été une saison qui a été globalement plutôt pas si mal réussie. Je veux dire que en face de lui, il y avait quand même deux équipes qui étaient Mios et Saint-Junien qui ont tiré quand même. La bourre, et c'était très dur de les passer, hein, pour avoir assisté à quelques matchs, il y avait vraiment un niveau au-dessus. Après, de mémoire, ils doivent faire, ils sont dans le top 5. C'est une bonne année. Ils ont, alors le problème, c'est pas de trouver des bons entraîneurs, parce que ça, ils arrivent à trouver des bons entraîneurs. C'est arriver à les garder. C'est-à-dire que, le problème d'Angoulême, c'est qu'ils arrivent pas à garder leurs bons entraîneurs et se projeter dans le bon tempo, ça c'est dommage. Le dernier en date, Rémi Sanson, qui soi-disant ça allait pas truc, aujourd'hui il entraîne la D1 de Stella Samor et on peut pas dire que c'est ses compétences qui soient remises en cause. Donc à un moment donné, il y a eu plein de bons entraîneurs, ils arrivent à trouver des bons entraîneurs. Après faut les stabiliser, les garder pour faire du bon travail, comme a fait Rémi Faugère à l'ETEC, chez les garçons. Il est resté 4-5 ans avant de partir ailleurs, mais sur 4-5 ans, on arrive à travailler quand même. Parce que si tu changes d'entraîneur tous les ans, c'est compliqué.
Ouais, mais quand t'as prévu cette rotation un peu excessive?
Ah, moi, je la trouve excessive. Maintenant, je suis plus dirigeant à la CH depuis 10 ans, donc c'est le choix des dirigeants.
Donc, le nouveau coach, c'est Edouard Van der Hermes. Le bilan, il est... assez mitigé, je crois que c'est sur 5 matchs, il y a 3 victoires de défaite, c'est ça Richard ?
Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il a ses deux pivots qui ont été blessés,
oui.
dont l'ancien Konya 16, Marlène Autin, là, que j'avais été chercher à Aigre à l'époque, et c'est et jouer sans pivot, c'est quand même compliqué, quoi.
C'est vrai.
C'est comme jouer sans gardienne de but attitré, bon, à part... s'appeler Giroud et remplacer le gardien de l'AC Milan, c'est quand même compliqué. C'est des postes spécifiques.
J'entends bien.
Je pense que c'est pas simple. Les deux défaites ont été pénalisées par ses blessures. Il a récupéré Justine comme pivot. On va voir ce que ça va donner. Il y a un prochain bloc là de matchs qui vont être intéressants avant la coupure pour les championnats du monde. Non, mais je pense qu'ils sont armés pour faire leur top 5 comme tous les ans, et avec un peu de chance, pourquoi pas un top 3, parce que Saint-Junien est un petit peu en baisse. Il y a Bergerac en embuscade. Mio, c'est pas si mal que ça, même s'ils ont perdu les deux filles de Myriam Borg. Ils sont partis jouer, et une en D2 et une autre dans un autre club.
Ils sont devant. Ils sont devant.
Ouais.
Donc, tu retrouves à peu près les mêmes équipes que l'année dernière devant.
C'est ça, le top 4, tu mets Bergerac, Mios, ouais. Saint-Junien, Angoulême. Tu as à peu près le top 4 de la poule de N1.
Ouais.
Après, si on veut parler un peu du handball garçon, moi je tiens à tirer un coup de chapeau à l'ETEC.
Oui, tout à fait.
Qui l'année dernière termine à la deuxième place du championnat.
Oui.
Qui, après le dépôt de bilan de Bruges, aurait dû récupérer la place de l'accédant.
Oui.
Parce que une équipe, quand il y a un dépôt de bilan, bah, tu peux pas monter, hein. Les arrangements entre petits amis au niveau de la fédération, hein. Et je trouve ça dommage pour le club de l'ETAC qui a fait un super boulot. Mais c'est pas grave. Parce que connaissant Thierry Lafarge, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui va profiter de cette occasion pour dire, bon, ça devait pas se faire. On va se réarmer, continuer à structurer le club, faire les travaux dans le chaudron de la Roche-sur-Yon pour l'agrandir, le modifier et en faire une forteresse imprenable. D'ailleurs, ce week-end, les Basques, ils ont fait les frais de se taper la Grande Muraille de Chine, mais la Grande Muraille de la Rochefoucauld, quoi. Le match, il s'est gagné en défense, ce qui a libéré des ballons pour les contre-attaques.
D'un mot pour nos auditeurs, qui est l'entraîneur de l'EPEC cette année?
Alors, c'est un nouveau qui s'appelle Gourou.
D'accord.
Que je ne connais pas, que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Mais le retour que j'ai, c'est qu'il fait du bon boulot. Et voilà, après, comme je te dis, le nouvel entraîneur d'Angoulême, on ne le connaissait pas plus. Il était dans la région lilloise. Voilà, il faut... Je pense qu'il faut laisser le temps aux entraîneurs de prendre leur marque. Quand tu débarques dans un club, c'est toujours pas évident de s'y faire. Et ça demande un petit temps d'adaptation. Alors, a priori, quand même, ces deux nouveaux entraîneurs ont réussi à s'adapter puisqu'ils ont quand même des succès. Donc, c'est tout à leur honneur. Et voilà.
Et que devient Richard aujourd'hui? Parce que je vois que tu as le regard... sur tous ces clubs charentais, et que deviens-tu, toi?
Bah écoute, moi, je viens de passer 8 mois en Corse. Je suis allé donner un coup de main à un copain à Ajaccio qui était président de club, qui a eu des soucis de santé. Donc, je l'ai aidé un petit peu à structurer son club, à faire différentes actions dans les écoles, dans les choses comme ça. Tu connais ma route pour le développement et en disant si on va pas rechercher les gamins dans les cours d'école. C'est pas des gamins qu'on retrouvera sur le terrain de handball ou de basket ou de foot ou de n'importe quel sport. Il faut redonner, après 2 ans de Covid où les gens sont restés informés, enfermés chez eux, le goût de refaire du sport, une activité physique. Voilà, c'est primordial.
Et si je peux me permettre, Richard, si mes souvenirs sont bons, il y a déjà 2 ans, tu avais beaucoup travaillé avec toute ton équipe, notamment du côté de Cognac, pour la formation du côté de Segonzac,
et pas mal. C'est ça, on avait ouvert une section sportive, la salle de Charente, au collège Fontbelle de Segonzac. C'était un travail de 4-5 ans qu'on avait amené avec le principal, qui est aujourd'hui à Soyaux, mais... on reste en contact, mais qui montrait que l'on pouvait, en milieu rural, aller proposer de l'excellence sportive. Donc, on s'était inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement. On avait mis gratuitement nos éducateurs à disposition de l'éducation nationale pour que ça ouvre. On avait eu le feu vert de l'inspecteur de l'IPR pour l'ouverture. La classe a ouvert l'année dernière, c'est la deuxième année. Effectivement, je suis un peu loin, je sais pas, l'année dernière on devait avoir une douzaine d'enfants, et cette année je sais pas combien il y en a. C'était principalement 6e, 5e, et l'année prochaine ouvrira la 4e, 3e.
Bon, ça déjà t'as emmené ce petit puce à... dans le pays.
Tu sais, depuis qu'on a perdu le pôle d'Angoulême, ce n'est plus qu'un pôle d'accession qui permet éventuellement de faire 4e, 3e. On a quand même plein de clubs qui jouent en région, que ça soit Saint-Yrieix, que ça soit Le Gon, que ça soit les équipes réserves d'Angoulême, les équipes réserves de Cognac, que ça soit la Rochefoucauld et d'autres clubs. Et on a besoin de joueuses intermédiaires. Sauf que si tu es pas sélectionné parmi les 12 filles qui peuvent prétendre au pôle d'accession en 4e et en 3e, c'est compliqué. Alors qu'il y a des talents qui peuvent être détectés plus tôt. Donc, en proposant une formation sur de la 6e à la 3e, avec 3 heures de handball, en plus des heures de sport pour travailler, en plus de l'UNSS, tu peux dire, tu peux peut-être arriver à sortir et à préparer quelques joueuses pour préparer le concours du pôle d'entrée. Alors, même si je pense que ça devrait être le travail du comité, mais bon, le comité le fait pas, donc nous on l'avait fait à Cognac.
Si je puis me permettre, Richard, peut-être que tu n'es pas dans l'obligation de me répondre sur cette question.
Bon, bah, tu sais que j'ai toujours été assez...
Oui.
T'es transparent.
Ouais. Je sais. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux encore reprendre des fonctions? C'est ça ma question. Tu n'es pas obligé de me répondre.
Bah, écoute, aujourd'hui, donc j'étais dirigeant à Ajaccio là, pour aider mon copain.
Oui.
Donc cette année, j'ai une licence à Ajaccio. Oui. Reprendre des fonctions en Charente. Aujourd'hui, je sais pas. Il faut attendre les décisions de justice.
D'accord. Non, mais c'était voilà.
Parce que la question, c'est de dire, soit j'avais raison et le tribunal invalide tout ce qui a été fait depuis mon éviction en disant qu'elle est illégitime et les allégations et la diffamation et tout ce que l'on s'en truc. Et là, je peux éventuellement prétendre à rejouer un rôle. Voilà. Sinon, tu sais, j'ai d'autres clubs ailleurs qui m'ont contacté.
Vous croyez que c'était suspensible, hein?
Non, l'appel n'est pas suspensif.
D'accord.
C'est suspensif sur les affaires judiciaires, tu vois. Pas sur le droit commun.
D'accord.
Non, mais il faut voir l'attaque de presse, de médisance qu'il y a eu. C'est pour ça que je m'astreins un peu à un silence, mais après, si j'ai vraiment gain de cause au tribunal, je reviendrai et puis je vous expliquerai les choses en long, en large et en travers avec des goûts un peu relents d'antisémitisme qui me restent un peu en travers la bouche.
Pour pas rentrer dans ce débat-là, ma question elle était simple. Est-ce que tu reviendras une fois que c'est classé? Est-ce que tu reviens dans le giron charentais ou est-ce que non, tu vas rester peut-être en Corse? Voilà.
Écoute, à aujourd'hui, je sais pas. J'accompagne toujours un peu le club d'Ajaccio, mais là, mon papa est très malade, donc je suis rentré pour m'occuper de lui et soulager un peu ma maman, ce qui me paraît normal. Donc, on fait des choses à distance. Je viens d'être sollicité par un club dans les Alpes. Voilà. À plus de 600 licenciés, tu vois, donc pour prendre la présidence. Tu vois, par exemple, Cognac, j'en avais fait le premier club de Charente avec plus de 320 licenciés. Milan de l'année dernière, a priori, cette année, ils ont perdu une centaine de licenciés en un an et demi, quoi. Et là, tu te dis, tout ce travail foutu en l'air, quoi. Tu sais, c'est, j'ai repris ce club, personne voulait le reprendre. Mmh. Il était limite en dépôt de bilan.
Bien sûr.
Un salarié et demi qui était rabot et gros, qui était mis à disposition par Grand Cognac. On s'est retrouvé sans personne. Un trou de 20 000 euros, des dettes.
Bien sûr.
Et il fallait avoir une vraie dose de motivation pour le reprendre et se battre. J'ai rencontré des gens magnifiques dans ce club avec qui je suis toujours ami 10 ans après. Et voilà, donc j'ai un attachement effectivement un petit peu sentimental. Je peux pas. Moi, je suis obligé de suivre un process qui est celui de la justice. Je peux pas aller plus vite, même si je trouve que ça va trop lentement à mon goût, mais c'est comme ça. Après, on juge les faits. 24 matchs, 24 défaites. Si tu regardes le classement de Cognac aujourd'hui par rapport au nombre de matchs joués, il manque des points. Et ce sont des points de pénalité sportive qu'a mis la fédération.
Richard,
la CNCD, qui sont les obligations d'arbitrage, n'a pas été respectée. Ils sont partis avec 2 ou 3 points de pénalité, ce qui fait que au lieu d'avoir X points, ils en ont tu compteras 3 points de victoire, 2 points un match nul. Tu regardes 5 matchs, tu verras qu'il en manque. Il en manque des points. Voilà. Après, c'est pas moi qui dis qu'ils sont incompétents, pas compétents et tout. C'est simplement, c'est des faits. On juge sur les faits. En 10 ans de président, j'ai jamais été sanctionné par la CNCD.
Ouais, mais pour être clair, de toute façon, ce sont des griefs qu'il faut démentir. Et après, seule la justice.
Exactement. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Je regarde. Je pleure des fois des larmes de sang parce que ça me fait mal. Mais je suis obligé de rester dans le temps judiciaire pour être droit dans les bottes et qu'on rétablisse mon honneur. Et voilà. Après, ça m'empêche pas de regarder, d'aller voir des matchs. Tu vois, la semaine prochaine, je je suis invité à Saint-Loubès, à côté de Bordeaux, voilà, par la coach qui a été championne de France avec un certain entraîneur qui s'appelle Olivier Crumbles, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, tu vois. Ouais. Je reçois des messages de gens partout qui comprennent pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave.
Pour revenir sur toi, Richard, le temps, tu le gères comment entre Ajaccio, entre Cognac, entre tout ce que tu fais professionnel et familial, puisque bon, on va souhaiter un prompt rétablissement à ta maman. Comment tu arrives à gérer tout ça, Richard?
Je dors pas beaucoup. Je dors. Disons que quand je dors bien. Je pense que je dois ronfler et faire trembler les murs. Mais voilà. Après, c'est une passion. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment sur l'inclusion, le sport féminin, aller chercher des gamines dans des endroits où c'est pas forcément facile, tu vois. On avait monté un projet avec le collège de Segonzac. Alors tu vas rigoler, c'était sur la précarité menstruelle. Aujourd'hui, Segonzac, c'est la capitale de la Grande Champagne. On peut croire que les gens sont riches et tout. Non, il y a une grosse pauvreté. Et on s'en rend compte sur les jeunes filles quand elles ont leurs règles, tu vois, elles n'ont pas forcément des protections. Et donc, on avait monté un projet pour mettre des distributeurs de protection féminine gratuite pour ces jeunes filles, tu vois, dans un milieu truc. Et puis, on n'avait pas eu le prix auquel on avait postulé. Mais j'ai vu que le département qui est toujours à l'affût des bonnes idées a repris ce principe et équipe toutes les lycéennes de choses pour éviter cette précarité. Mais tu vois, il y a tellement de choses à faire. On en est tellement loin de l'égalité homme-femme dans le domaine du sport. Tu te rends compte, aujourd'hui, il y a des jeunes athlètes qui font de l'athlétisme qui sont obligés de financer par des cagnottes en ligne leur préparation olympique. Non, mais tu dis, je rêve, quoi. Et comme par hasard, c'est que des femmes.
C'est vrai.
Non, mais tu dis, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Elles sont obligées de quémander le soutien du public pour aller aux Jeux Olympiques qu'on lui a à Paris, quoi. Tu te dis, mais il y a un truc que je, voilà. Alors, imagine, dans nos campagnes, parce que on est en campagne, pour ces jeunes filles, faire du sport, c'est pas forcément la première priorité familiale. Et on le comprend, hein. Il y a des difficultés pour les courses, pour différentes choses. Et c'est pas simple. Donc, c'est à nous d'aller trouver des moyens de faire en sorte, on regarde Dalila qui a fait ses premiers pas en équipe de France. C'est une petite qui a commencé à Angoulême il y a une quinzaine d'années et qu'on a vu grandir.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, elle est capitaine de l'ATH à côté de Strasbourg. Et elle vient à 30 ans, elle vient de faire ses premiers pas en équipe de France. Mais quelle fierté! Je vais te dire, c'est ça le quand t'es dirigeant d'un club, c'est ça, quoi.
C'est de développer, d'accueillir, et ça, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Et évidemment, cette énergie-là, si on la dépense ailleurs, on peut pas la dépenser sur ce que les projets qui sont mis en place.
Richard, avec du recul, est-ce que le handball en Charente se porte bien ou pas?
On a retrouvé un volume qui doit tourner autour des 2000 l'année dernière. On devait être à 2200, 2300 licenciés. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Je pense que ce que j'ai fait pour ouvrir une section sportive, on a commencé par une classe à horaire aménagé. Alors pour le club de Cognac, on en a trois. Un au collège Élise Mounier, on en avait fait un à Segonzac et un au collège privé de Cognac. Tu te dis, un club comme Cognac. Le plus gros collège de Charente, c'est la Couronne. Qu'est-ce que le comité a fait pour remettre du handball à la Couronne? Rien. Donc, on se contente de ce que les clubs font et on va pas avoir une action positive pour aller chercher des licenciés pour développer des choses. On a un nombre de clubs qui rétrécit tous les 4-5 ans. Moi, je me rappelle avoir joué à Nersac avoir coaché sur un truc qui était un terrain de tennis avec du ciment. Tu te rappelles de ça?
C'est ça.
Dans la zone industrielle.
Même Oual. Voilà.
Donc, voilà. Et là, tu te dis, mais il y avait un club qui marchait, il y avait des équipes, il y avait des trucs. Il n'y a plus rien. Et tu te dis, malheureusement, c'est dommageable. Rouillac, pourquoi il n'y a pas un club de hand à Rouillac? Il y a un collège et un lycée. Pourquoi il y a rien?
On avait un bon club dans le temps.
Eh oui.
On avait un bon Richard dans le temps à Rouillac.
Oui, c'est ça, il y avait des choses. Donc, Barbezieux, ils sont en train de se relancer tout doucement. Ils commencent à prendre les catégories de jeunes, alors que ça avait été un club phare dans les années 60. Mais,
et Blanzac, il y avait Blanzac également.
Eh oui, tu vois, Blanzac, il n'y avait plus rien. Après, on a Chalais, on a Villebois. Mais tu te dis, bon, dans le Nord-Charente, il y a quand même d'autres endroits.
Confolens, peut-être
Ruffec, Confolens.
Non, mais Confolens, Ruffec, il y a Ruffec, Confolens et Montbron. C'est tout.
C'est tout. Et Mansle.
C'est tout. Et Mansle, oui, Mansle avec mon ami François Mazot qui est président et qui développe bien son club. Voilà, mais tu te dis, il y a quand même des possibilités d'aller. Pourquoi il n'y a pas de club à la Couronne avec le plus gros collège de Charente?
Oui, sans compter que la Couronne est une agglomération où il y a beaucoup d'associations sportives. Hein.
Ils sont très forts sur le judo, le basket. À l'époque, le basket féminin, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils étaient en N3. Après, il faut avoir envie d'aller se battre. Ouais, mais peut-être que le comité n'a pas envie et que leur peut-être de bénévoles à leur bonheur.
Il manque peut-être des bénévoles aussi, Richard. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les bénévoles, il y en a de moins en moins.
Ouais, faut peut-être juste leur donner envie.
Et pourtant, il y a des locomotives, au plan national et international, les équipes de France, que ce soit féminines ou masculines, se portent bien.
Alors, oui, effectivement, on est l'un des sports collectifs les plus titrés au monde. Un des sports collectifs les plus titrés français, on a des titres de champion olympique, des titres de championnat du monde et tout. Tu vois, quand un sport hyper médiatique que le basket n'a pas réussi à décrocher un titre olympique, tu dis, nous, on en est déjà à deux chez les garçons, chez les filles, plus les titres de vice-champion, machin. Bon, mais ça reste un sport qui est quand même pas assez médiatisé. Quoi qu'on en dise, tu vois, le partenariat avec Lidl se termine. Il n'est pas reconduit. Aujourd'hui, des Lidl, tu en as partout. Tu poussais la porte de Lidl, Lidl soutient le handball français, tu vois. Et ça, c'était la meilleure publicité qu'on a. Alors, j'espère que la fédération trouvera un nouveau partenaire, mais c'était vraiment quelque chose de fort. Maintenant, il faut qu'on sorte de l'image du sport de la cour d'école. On a des filières de formation qui marchent bien. On sort des champions de nos pôles qui alimentent nos équipes de France. Et maintenant, il faut passer un cap. Alors, c'est pas évident, hein. Les garçons sont pas trop mal médiatisés avec Bein. Les filles, un peu moins. Alors, la question, c'est se dire, est-ce qu'il faut pas créer son propre média? C'est-à-dire, demain, est-ce qu'il faut pas, au sein des clubs, monter, avec un système de caméra Wi-Fi, avec des systèmes embarqués? Des diffusions via Facebook Live, via une chaîne dédiée, via des applications, digitaliser un petit peu plus ta communication que... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est des réflexions à avoir. Avant, il y avait le coût financier qui pouvait être un frein. Aujourd'hui, tu arrives à avoir des petites caméras qui suivent l'action automatiquement... pour 250 à 400 euros, tu peux dire bon, on peut arriver à faire des choses, pourquoi pas. Je suis allé voir beaucoup quand j'étais en Corse d'autres sports. Je suis allé voir le foot qui était en D1 à Ajaccio. Je suis allé voir le volleyball qui était en deuxième division. C'est intéressant de voir comment travaillent les autres sports. Comment ils travaillent, par exemple, leur VIP, leur réceptif, comment ils travaillent leur partenaire, comment ils travaillent la diffusion de l'information à travers les réseaux sociaux. Il y a des applications qui sont dédiées et pour faire de leurs spectateurs des fans. Mmh. Et une fois que tu as fait de tes spectateurs des fans, tu arrives à fidéliser tes spectateurs. Mmh. Mais ça va, par exemple, aller demain, si on veut que le match soit une fête familiale, est-ce qu'il faut pas prévoir une structure d'accueil pour les enfants en bas âge ? Par exemple.
Oui, je me souviens d'une réflexion que tu avais faite sur ce sujet-là. C'était pour rendre des matchs beaucoup plus optimistes et pour attirer du monde. C'est plutôt que de faire des sandwichs au jambon avec du jambon sous cellophane, alors qu'on pourrait faire un excellent produit avec du jambon premium. Tout ça va autour.
Ah ben moi, là, quand j'ai, c'est simple. Quand j'ai arrêté d'acheter du cellophane et que je me suis mis d'accord avec Intermarché, qui était notre partenaire, pour prendre du jambon à la coupe, alors ce qu'ils appellent les fins de jambon, tu sais, où les tranches sont plus petites, mais tu t'en fous, et qu'elle me le faisait à 50%, et donc le jambon coupé moins cher avec du bon pain, du beurre salé, ben de 20 sandwichs on est passé à en vendre à 100 par semaine, et ça me coûtait moins cher que de mettre du jambon sous sel au frais. Mais bon, après il y a plein de choses à réfléchir plein de choses. On a par exemple Maître Cochon à Angoulême qui fait des bons produits de charcuterie. Tu peux éventuellement travailler avec un partenariat avec une entreprise locale pour proposer proposer un sandwich au grillon charentais, tu vois.
Par exemple, oui.
Je trouve que c'est quand même mieux qu'une mousse de foie qui n'a pas de goût, quoi, tu vois.
Ça fait partie de l'accueil, tout ça. C'est intéressé, bien sûr.
Il y a plusieurs choses à revoir. Quand on avait fait venir une fanfare que j'ai vue à Sainte avait une fanfare qui venait, qui mettait de l'ambiance. Bon, ça me coûtait pour les faire venir. Ça me coûtait 300 balles, une bouteille d'eau, un sandwich. Bon, c'était pas grand chose. Mais ça m'a foutu une ambiance de fou. Les deux derniers matchs, quand on monte de N2 en N1, je pense qu'on avait dépassé les normes de sécurité au Vosel. Et en 10 ans, j'ai jamais vu autant de monde au Vosel. C'est-à-dire que moi, à la fin du match, je l'ai vu sous les jambes d'une fille parce que il y avait trois rangées au bar devant moi et je voyais rien, quoi. C'était un truc de fou. J'avais jamais vu ça. Une ambiance, voilà. Et à un moment donné, tu dis, j'investis un petit peu sur une opération pour faire venir du monde. Et fin de compte, l'investissement, tu le retrouves derrière, pas en billetterie, parce que t'es idiot de faire payer l'année dernière les billets. En plus, tu perds, donc voilà. Mais tu retrouves les gens en consommant au bar. Parce que les gens sont contents, ils passent une bonne truc. Ah bah tiens, on va prendre une bière, un orangina, quelque chose, un sandwich.
Oui, puis ça permet de connaître, de découvrir le produit. C'est important.
Non, mais il y a plein de choses à réfléchir, à réorganiser. Et tu vois, par exemple, tu parlais des bénévoles, c'était compliqué. Une chose que j'ai pris au volleyball à Ajaccio, ils font un truc que j'ai jamais fait parce que j'y ai pas pensé, tout bêtement. C'est à la fin des matchs, il y a un moment pour les bénévoles qui ont ouvré sur le match où on leur offre un petit frichti, tu vois, mais qu'un moment pour eux, quoi.
Et c'est important, c'est pas grand chose. C'est un signe de reconnaissance.
C'est important.
C'est un signe de reconnaissance. C'est pas grand chose. C'est-à-dire, au lieu de rentrer, de ranger et puis de rentrer chez soi, eh ben non, vous avez un moment à vous avec un coup à boire, un cognac Schweppes, il y a du pâté, du pain, du truc, machin. Et c'est vraiment un moment à soi, quoi. Et tu vois, ça, moi, je l'ai pas mis en place parce que j'y ai pas pensé. Mais le fait de l'avoir vu ailleurs, je me dis, parce qu'on est tous, on est tous bénévoles et j'ai pas eu l'idée, j'y ai pas pensé.
Ça prouve que les bonnes idées, il faut savoir les sortir peu de son précaré pour aller les chercher. Hein.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de honte à aller voir ailleurs ce qui se passe. Ouais. Au contraire, ça t'ouvre l'esprit.
Le handball et le sport est une fête. Donc
il faut que ça soit une fête. Et il faut que tes clients, que tes partenaires, que tes spectateurs comprennent du plaisir, qu'on se dise, allez, on va passer un bon moment.
C'est vrai.
Ça doit être fait pour ça. Moi, je pense que la vie associative, c'est important et ça lie un lien social entre tout le monde. Donc, effectivement, il a raison, Richard.
On l'aura bien compris. Richard est un passionné. C'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour son sport, pour le sport en général et sur l'aspect humain en particulier. Donc, on peut le taxer d'être humaniste. Voilà. C'est ça. C'est à ça que je pense, Richard, pour te qualifier.
Oui, mais tu sais, je m'inscris, alors je l'ai pas rencontré. J'avais rencontré sa femme et son fils. Mais Jean Lacaze était dans cette tradition. C'est ce qui m'a fait avoir ce coup de cœur pour ce club. Comme me disait sa femme, des fois, l'argent des courses partait pour acheter une paire de godasses à une drôlesse qui avait pas d'argent, des trucs, tu vois. Et à un moment donné, c'était cette vision, on peut rapprocher les peuples, les gens autour d'une passion et d'une activité commune. C'est quand même mieux que de se foutre sur la figure, quoi. C'est là où je me dis bon, il faut continuer là-dessus et voilà. Donc ce que j'ai hâte moi, c'est que ces histoires judiciaires voilà. Et puis après on verra. Et
Richard, on arrive au terme de cette émission. On a débordé le cadre, mais bon, c'est toujours un plaisir d'être avec toi tant que tu es un interlocuteur de qualité. Concrètement, à travers de tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Richard?
Me souhaiter, de garder cette flamme que j'ai, de cet enthousiasme que j'ai à aller. Ce que je dis souvent, c'est que l'impossible recule chaque fois qu'on avance vers lui. Et je le fais avec enthousiasme. Et ça, je voudrais pas le perdre. Voilà. Après, que ça soit en Charente ou ailleurs, j'espère garder cette. Cet enthousiasme, cette passion. Voilà, Cognac, c'est un peu mon bébé. Je l'ai repris dans une situation qui était catastrophique. Voilà, c'est d'où cette blessure un petit peu interne et que j'aimerais au moins laver mon honneur de façon définitive.
C'est tout le mal qu'on te souhaite, Richard. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Dédé, donc, se joint à moi pour te souhaiter le meilleur, Richard. Et on se dit un petit peu plus tard dans la saison prochaine, puisque probablement la justice sera prononcée à ce moment-là et qu'on pourra parler.
On pourra reparler des autres clubs charentais, puisque j'ai mis toujours mon regard.
Tout à fait, tout à fait.
Sans problème, avec plaisir.
Bonne soirée, Richard. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt, Richard. À bientôt.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va parler des résultats des équipes charentaises ce week-end en sport collectif. Nous allons commencer par le football et la CFC qui jouait en championnat national 2. La CFC se déplaçait à Saumur. Malheureusement, les hommes de David Gigel s'inclinent 3-1. Saumur ouvre le score en première mi-temps par Weil Bout. En deuxième mi-temps, Bourgo double la mise pour les locaux. Du côté charentais, réduction du score de Lucas Liort. Mais malheureusement, dans les arrêts de jeu, le Bourgo marque un doublé et permet donc à Saumur de s'imposer 3-1. C'est donc la troisième défaite malheureusement pour Angoulême lors des quatre dernières journées de National 2. Dans les autres matchs de cette poule B, Bergerac et La Roche-sur-Yon font 1 partout, Blois et Trélissac font 0-0, Libourne et Angers font 0-0, Les Herbiers et Saint-Privé font 2 partout, Paris et Romorantin font 1 partout, et enfin Avoine-Chinon bat Bourges 2-1. Avec cette défaite, la CFC descend à la 9ème place avec 10 points, c'est 5 points de retard sur le leader, La Roche-Vendée. En Régional 1, malheureusement, défaite également de la réserve de la CFC, qui recevait Porte-Entre-deux-Mers. Malgré l'ouverture du score de la Moraille dès la troisième minute, c'est bien Porte-Entre-deux-Mers qui s'impose. Rémi Gauthier avait marqué un pénalty en fin de match pour revenir à 3-2. Malheureusement, un but qui ne permettra pas aux Angoumoisins de revenir. Défaite de la CFC 3-2. En Régional 2, quelques matchs côté Charentais, avec notamment la victoire de Charente-Limousine du côté de Boussac, victoire 2-0 de Charente-Limousine qui est très en forme notamment à l'extérieur cette saison. En Poule C, victoire pour Sireuil dans le derby charentais du week-end, victoire de Sireuil donc 2-0 à Merpin. Et enfin en Poule D, défaite de l'Alliance 3B 2-0 contre la réserve de Bergerac. En Régional 3, en poule B, également derby charentais du week-end avec Confolens qui recevait Ruffec. C'est Ruffec qui s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Confolens. En poule C, Jarnac s'impose contre Saint-Palais 2-0, Cognac bat Selvérine 2-0. Des bons résultats pour nos clubs charentais dans cette poule. Enfin, en poule D, La Roche-Rivière fait match nul à Couzex-Chapla 2-2. Champigny gagne contre le FC 3 Vallée 86 1-0. Et enfin, dans le derby charentais du week-end dans cette poule, Puymoyen bat Soyaux 7-1. En première division, je vais donner les scores de la cinquième journée avec la victoire de Brie 3-1 contre l'Essac, la victoire de Merpin 2-1 contre Sireuil, victoire de Moutier contre la Lance 3B 1-0, victoire de Linard contre Ruel 3-1, victoire de la Couronne au Portugais du Gond 5-1 et victoire de Leroy contre Saint-Michel 2-2. En poule A, victoire de Montbron 2-1 contre Ruffec, victoire de Chasseneuil 4-2 à Rouler, victoire de Ruel 2-1 contre Champigny, match nul entre Aigre et Mornac 2-2, victoire de Charente-Limousine contre Brigueuil 4-1 et victoire de La Roche-Rivière contre Fléac 4-1 également. Enfin, en poule B, victoire de Verdille 2-1 contre Saint-Brice, victoire de Grande-Champagne 1-0 contre Puymoyen, victoire de Saint-Séverin contre Clé 3-2, victoire de Jarnac à Montmoreau 4-2 et victoire de Saint-Alex 2-0 du côté de Sud-Charente. On va rappeler le résultat du SA15 avec malheureusement une défaite du côté de Colomiers. Défaite 28-17 pour les Violets qui sont 15e en Pro D2. On a débriefé le match avec Fred et Loïc dans le SA15 Mag Attitude. En Fédéral 1, victoire de Bergerac qui s'impose contre Tulle. Victoire 17-10 pour les Barbezilliens qui ont résisté à une équipe de Tulle notamment très puissante du côté de ses avants. En handball, victoire de l'ETEC à Iris Tarak, victoire 26-25, un petit plus d'écart qui fait une grosse différence puisque l'ETEC remonte à la troisième place du classement. En National 1 féminine, victoire de la CH de 10 buts, victoire 36-26 contre La Roche-sur-Yon, la CH est quatrième. Et enfin, en National 2 féminine, défaite de Cognac à LGO, défaite de Cognac 26-23 du côté de Pau. Cognac est 8e du classement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.